Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant. Quand le petit matin nous dit viens. L'ADN, l'émission qui se promène dans le champ du mouvement. En cheminant, Magali se met à l'écoute d'actions, d'événements ou encore de témoignages d'acteurs et actrices remarquables des territoires drômois et ardéchois qui agissent et réagissent au cœur de l'incontournable transiliance qui s'opère dans ce contexte flex et complexe de ce début de troisième millénaire. Route des rages. La Chapelle en Vercors, un 17 mars. En chemin vers la rencontre de Fabrice Capizzano, apiculteur, auteur. Je l'aperçois, penché sur ses ruches.
Bonjour Fabrice. Alors Fabrice m'accueille avec une panoplie.
Salut ma galaille. C'est parti.
Ça là.
Tiens, essaye ça. Une combinaison blanche d'apiculteurs. Parce que c'est la couleur qui les agresse le moins.
Voilà. Bon, il faut rester calme.
Ouais. Il faut essayer de ne pas faire de gestes brusques, de ne pas être trop énervé.
Ah, élégant là, c'est pour moi.
Exactement.
Et ça, faut passer la main dedans. C'est quoi l'idée?
Ça peut rassurer. Peut-être un petit trou ou deux, mais.
Oh écoute, mon Dieu.
C'est le baptême. Après, je n'ai pas mon brevet de secouriste. Hein.
Moi, oui, mais bon, si ça je suis par terre, je ne servirai pas à grand-chose. Bah, écoute.
Alors, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Je veux bien te filer un super voile, une super combi.
Ouais.
Mais le minimum, c'est qu'il y ait un trou ou deux dans les gants, quoi.
Ok, bah, je vais mettre les mains dans mes poches, non? Tu vas me faire travailler ou pas? Comment
non,
ça se passe?
Je ne vais pas te faire bosser.
Bon.
J'ai des choses à faire. Puis, comme je suis un vieux garçon, plein de vieilles habitudes.
Pas touche à tes ruches.
On peut, mais en fait, on a toujours peur des gens qui touchent au cadre, tout simplement qu'ils écrasent la reine, tu vois. Mmh. Et voilà, parce qu'un néophyte, forcément, il a des gestes pas super précis. Et moi, le premier, je peux tuer une reine, donc un débutant, c'est encore pire. Mmh. Et nos reines, c'est tout, quoi. Mmh. C'est plus que la colonie. Enfin non, c'est aussi important. Non, parce que la reine sans la colonie, elle n'existe pas. Mmh. C'est pas la reine qui décide, c'est l'esprit de la ruche. Ça va aller?
Très bien.
Ok.
C'est donc pas là, la reine qui décide, c'est l'esprit de la ruche.
Oui, mais en même temps, s'il n'y a pas de reine, il n'y a plus de ruche, quoi. Donc c'est une osmose, mais au final, on dit que c'est une dictature et tout, mais non, c'est très démocratique, parce que si l'esprit de la ruche, il décide que la reine, elle vaut peanuts, ben il la zigouille. Alors, la règle d'or pour toi, dans la mesure de possible, c'est de ne pas te poser devant les trous d'envol.
Ouais.
Parce que sinon...
Je suis sur leur passage.
Et puis ça va faire un nuage d'abeilles qui cherchent à rentrer dans leur ruche. Et puis, elles vont être énervées, et ça va pourrir l'ambiance. Et tu vois là, c'est plein d'abeilles qui ramènent des pelotes de pollen là. Tu vois, elles ont plein de petites boules jaunes aux pattes, là.
Mmh. Ouais, je vois.
Donc ça veut dire qu'il y a de la ponte.
Ok.
Ça, direct, avant d'ouvrir, tu sais s'il y a de la ponte, s'il y a une reine qui pond ou pas, parce qu'elles rentrent du pollen. Et s'il n'y a pas de reine, s'il n'y a pas de ponte, elles n'ont pas de raison de rentrer du pollen, parce que le pollen, c'est ce qui nourrit les larves, quoi. Mmh. Ce qu'on appelle le couvain.
Si vous voulez en savoir plus, il faut lire une salamandre à l'oreille,
ouais.
Qui, quand même, parle pas mal des abeilles.
Ouais. Ouais,
c'est carrément. Pas qu'une histoire de salamandre. Bref, on en parlera plus tard.
Ok, donc je viens d'ouvrir celle-ci, moi là. J'en ai encore 5 à ouvrir. J'ai commencé à faire des essaims, c'est-à-dire j'ai commencé à créer une nouvelle colonie. C'est un peu tôt, mais j'essaye. Voilà.
Pourquoi c'est un peu tôt?
Parce que pour créer une nouvelle colonie, ça veut dire qu'il va y avoir une reine vierge dans 15 jours qui va naître et qui, 15 jours après, va sortir pour faire son vol nuptial et se faire féconder. Déjà, il faut qu'il y ait des faux bourdons. Et là, tout juste, il y a du couvain de faux bourdons. Elle recommence à pondre des œufs de mâles qui vont naître d'ici 15 jours, 3 semaines. Le temps qu'ils soient mûrs aussi, c'est-à-dire qu'ils soient féconds, il faut 15 jours. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les essaims trop tôt parce qu'il n'y a pas de faux bourdons, il n'y a pas de mâles l'hiver. Elle les zigouille parce que c'est des bouches à nourrir pour rien en fait. Et elle recommence, la reine, à pondre du mâle là en ce moment, dans le but de repartir pour des fécondations quoi.
D'accord. C'est quoi la différence entre un faux bourdon,
et un bourdon? C'est de la race des bourdons et un faux bourdon c'est de la race des abeilles. C'est-à-dire qu'on les appelle les faux bourdons mais c'est des mâles d'abeilles en fait.
Okay.
Qui servent que à la fécondation.
Ils ont quel look?
En fait, ça dépend des années et de la tendance fashion. Je sais que l'année dernière, c'était très moulé. Il y a 3 ans, c'était pas de def. Quel look? C'est des grosses abeilles un peu trapues. C'est pas tôt, des fois ils sont albinos, ils peuvent être un peu albinos parce que consanguins, avec des yeux blancs, aveugles, tout blancs. Enfin, ça ressemble à une grosse abeille un peu trapue, quoi. Allez, c'est parti. Là, il y a plein d'abeilles là-dedans, je suis bien content. Donc là, je suis en train d'écarter les cadres pour pouvoir en sortir un sans tout écraser. Donc moi je suis en ruche d'Adam 10 cadres, cadre droit.
C'est quoi d'Adam?
C'est un format de ruche qui convient très bien à la montagne. Dans le sud, ils ont des langstrottes. Tiens, ça c'est très beau ça.
Alors là, le cadre est presque couvert d'abeilles.
Là je cherche la reine. Je cherche la maman. Elle est là. Est-ce que tu la vois?
Oui, je la vois, elle a un petit point blanc sur le dos.
Oui, je lui ai mis un petit point blanc. C'est pour pouvoir la trouver facilement.
Ouais.
Ça va toujours?
Ça va toujours, je reste calme. Ah, donc là, il y a plein d'abeilles sur le couvercle de la petite boîte dans laquelle tu as...
Ouais, c'est ce qu'on appelle une cage à pistons.
Une cage à pistons. Donc ouais, reine est dans la cage à pistons.
Oui, ce qui me permet, si tu veux, de manipuler la ruche... sans que je prenne le moindre risque de l'écraser. Et puis comme je fais des essaims, c'est-à-dire je lui prends un cadre et je le mets dans une autre ruche, ça permet de ne pas embarquer la reine, tu vois.
Ok.
You see what I mean. 1, 2, 3, 4, 5, plus. Et 6. Elle est magnifique cette ruche. Donc je vais lui pomper un cadre, on appelle ça pomper un cadre. Enfin, dans le jargon. Je viens de secouer un cadre d'abeilles pour pas les écraser.
En effet, on a eu un beau nuage d'abeilles là. Je recule un peu. Je recule doucettement. Parce que je sens quand même qu'on les dérange. Voilà, la reine vient de ressortir de la cage à pistons et elle va retourner tranquillement dans sa case. Bon, ça demande quand même concentration, présence à soi-même et aux abeilles.
Bah, tu vois, quand on a 250, 300, voire 500 ou 600, c'est pareil. Et après, à chaque fois qu'on fait des essaims, c'est-à-dire on fait des essaims jusqu'à la fin de la saison, on refait cette opération où quasi normalement, à chaque fois que tu ouvres une ruche et que tu sors des cadres, il faut regarder, il faut trouver la reine toujours pour éviter de l'écraser, de l'embarquer. Donc il y a du job quoi, il y a toujours du boulot en fait, on sous-estime beaucoup le travail.
D'accord.
Sans parler de porter les ruches pour les déplacer, pour courir après la fleur ou les récoltes de miel qui peuvent être très physiques quoi.
Et ça, alors, ça fait combien de temps que tu es apiculteur?
Écoute, j'ai fait une toute première saison en 97 du côté de Chabeuil, au rucher de la Tour. Et puis, j'y suis revenu en 2004. J'ai fait des saisons 2004, 2005, 2006. Corse 1 et Vercors. Parallèlement, j'ai monté mon cheptel, doucement. J'ai passé un BPREA, donc un brevet professionnel de responsable agricole, en 2007. Et en 2008, j'avais mes 200 ruches, c'est-à-dire la surface minimum d'installation. Et je me suis installé en 2008. Donc, clairement, je fais ça depuis 2004. J'ai tenu 7-8 ans. J'ai arrêté en 2015 à peu près. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté en professionnel. Et que je suis amateur, quoi. Okay. Amateur, c'est 20, une vingtaine de ruches, quoi. Tu vois. J'en avais 17 il y a 2 ans et j'en ai perdu 16 à cause du frelon. Tu vois.
Okay.
Donc ça veut dire que j'avais plus qu'une ruche. T'as une ruche, et ben c'est reparti. Tu repars de 1, tu divises, t'en fais 2, tu divises, t'en fais 3, et puis c'est reparti, quoi.
Tout le monde sait que t'es apiculteur, mais pas seulement. T'es auteur aussi.
Ouais, alors.
Mais t'as commencé par quoi ? Auteur ou apiculteur ?
J'ai commencé par l'écriture, mais tout petit, quoi. J'ai commencé gamin, et puis ado, et puis jeune adulte. Et c'est quand j'ai commencé à devenir apiculteur que j'ai arrêté l'écriture. Parce que j'avais plus le temps, j'avais plus la dispo, j'avais une vie de fou, et puis j'avais envie de concret, quoi. J'avais envie de m'ancrer, j'avais envie de sortir du royaume des rêves. L'écriture, c'était super, hein, mais ça m'entretenait beaucoup là-dedans, mais j'avais besoin d'un ancrage fort. Et en fait, je l'ai trouvé et ça m'a beaucoup convenu, en fait, 10 ans d'apiculture pour l'ancrage, quoi. Et voilà, après, ça t'empêche pas de cogiter, t'imaginer des histoires quand t'es aux ruches, mais je me suis dit je les écrirai plus tard et c'est ce qui a été le cas. Tu vois.
Les trois ouvrages dont on parle sont les ouvrages qui ont été écrits après ton expérience d'apiculteur.
Ah ouais. Bah, disons que quand j'ai arrêté l'apiculture, je me suis remis à l'écriture de manière un peu évidente. Et sans me poser de questions pour autant, je me suis remis derrière mon clavier et puis j'ai commencé à raconter une histoire. Et c'est sorti tout seul en fait, tu vois, le premier, la fille du chasse-neige là. Je me suis posé aucune question, quoi. J'y suis allé sans filet, quoi. C'est le principe de l'innocence et du naïf absolu, quoi. Le mec qui se plonge dans un roman en disant pas de problème. Aujourd'hui, je vois toutes les questions que je me pose avant de m'y lancer et tout. Là, ça n'a pas été le cas. J'étais vraiment dans une urgence. J'avais des mots qui me sortaient de partout, quoi. Il fallait que ça expulse, ça jaillisse.
Et le second ?
Ouais, le second, bah t'as toujours ce putain de syndrome du second. Le second, c'est compliqué, quoi. Tout le monde te le dit, parce que surtout quand t'as un premier qui a marché, tu vois. Déjà, tu sais pas si tu vas réussir à en écrire un deuxième. Et puis, tu peux tomber dans le piège de l'attente du lecteur. Tu te dis, bah le premier, il a marché parce que ça. On t'a dit, ouais, ça c'est super, et du coup tu peux tomber dans le piège de répondre à une espèce de commande, tu vois, ou de recette, tu vois. Et vraiment, le second, c'est le plus dur pour un auteur, et puis c'est celui qui transforme l'essai, quoi. Est-ce que t'es un auteur ou est-ce que t'as juste eu de la chance, quoi, tu vois. Donc, il a été plus compliqué, et puis j'étais affreusement bavard sur mon second.
C'est-à-dire ?
Bah, j'ai beaucoup palabré, j'ai beaucoup raconté, j'en ai fait des caisses. J'avais besoin de... Je suis quand même tombé un peu dans le travers du piège, de la peur d'être lu, tu vois. Et et d'être influencé quand même par ce regard du lecteur. Et en fait, mon éditrice m'a dit c'est bien, mais ça va pas quoi. Trop bavard, tu nous expliques trois fois les choses. Il y a des moments où tu nous dis regardez comme j'écris bien. Quand j'ai pigé ça, en fait, j'ai viré 60 pages. Tu vois, ça m'a fait l'effet de... Je sais pas si tu connais l'épamprage dans le travail de la vigne.
Non.
En fait, l'épamprage, c'est au printemps, tu sais, quand t'enlèves tous les gourmands sur un pied de vigne, qui viennent pomper de l'énergie au pied au détriment du raisin. Et donc, quand tu piges comment fonctionne un pied de vigne pour avoir fait de l'épamprage, en fait, tu sens presque que le pied te remercie de lui redonner de la vitalité, de l'air pour le raisin, pour le fruit.
Ouais, c'est pas un peu de l'anthropomorphisme, ça?
Peut-être. Non, parce que... Peut-être. À la rigueur, c'est pas grave.
On prend, on garde. Ouais.
Ben là, c'est pareil. Quand j'ai pigé ce qui n'allait pas dans le deuxième roman et tout le bavardage qui fait que j'arrêtais pas de dire « Ouais, mais moi, je suis pas un mec qui m'écoute écrire. » J'étais tombé dans ce putain de piège de « Si, je m'écoutais écrire. » J'étais bavard, j'étais là en mettre plein la vue au lecteur, de « Regardez, moi, tous les styles que je peux avoir. Regardez ma syntaxe. Regardez comme je suis bon en métaphore. Vous en voulez encore? Je vais vous en remettre une couche. » Et je parle, je donne cette image-là d'une pizza au cassoulet, tu vois, c'était ça en fait. J'en mettais trop plein les yeux, plein la tête au lecteur. Et quand tu piges ce qui va pas et que tu commences à enlever tous ces gourmands qui viennent pomper le fruit, l'énergie du reste de la phrase, et ben en fait, c'est une espèce de délestage, mais qui est merveilleux. Moi, c'était fantastique en fait quand j'ai pigé. Et j'ai viré 60 pages, mais alors sans sourciller quoi. Alors qu'un auteur, tu lui enlèves un mot de son livre, tu lui arraches un membre, tu vois. Et là, c'était juste bon. Donc le deuxième, c'était ça. Après, l'histoire, je l'avais, mes persos, je les avais, le kiff, l'envie d'écrire, je l'avais, tout était encore en l'état. Sauf que j'avais, voilà, ce problème-là. Et le troisième, j'ai pas du tout eu ce problème, par contre. Troisième, j'y suis allé, j'avais un vrai axe de sobriété où j'avais décidé d'être le moins narratif possible parce que j'avais envie d'en dire un maximum via mes dialogues, tu vois. Je voulais que mes persos soient incarnés et ils parlent au lecteur par rapport à sa rythmique, par rapport à son vocabulaire, par rapport à ses silences. Et du coup, il y a des moments où je fais de la narration, bien sûr, si tu veux. Mais tu vois, le troisième, en nombre de signes, pas en nombre de pages, mais en nombre de signes, il y a moitié moins que le second. Et il a plus
là,
touché...
Là, c'est la salamandre à l'oreille.
Voilà. Et il a plus touché, ce troisième, que le second, au final. Mais je vais à l'os, tu vois. Je suis inspiré par Miles Davis, par exemple, qui, lui, à la fin, il sortait trois notes, mais c'était... de la pureté absolue. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup plus écho. En tout cas, pour ce troisième, ça me faisait écho. Le quatrième, je l'aborde encore différemment.
Le dernier, le troisième roman, La salamandre à l'oreille, elle est habitée de ton histoire personnelle?
Pas plus que les autres. C'est-à-dire qu'il y a toujours, un peu de moi, mais il n'y a pas plus ni moins que dans les précédents. C'est-à-dire que oui, là, on a tendance évidemment à faire le parallèle entre ma vie et la vie de Samuel Page, qui est le protagoniste de Une salamandre à l'oreille. Parce que le mec, il était auteur, puis il est devenu agriculteur.
Donc forcément.
Forcément. Sauf que moi, c'était tout le contraire et ça change tout. J'ai d'abord été apiculteur, puis auteur, en vérité. Et ça change, je trouve, beaucoup de choses. C'est-à-dire que je me suis posé la question de si ça avait été le contraire, si j'avais été auteur, puis apiculteur, quelle aurait été ma vie et comment aurait été mon écriture. Et je sais aujourd'hui, pour avoir été d'abord apiculteur, ce que l'apiculture m'apporte en tant qu'auteur, dans ce côté ancrage, dans le côté collé à la réalité, avec une part de moi qui rêve et qui écrit avec sa tête, tu vois. Et il n'y a pas plus de moi dans celui-là que dans les autres. Les autres, il y avait un musicien, il y avait un photographe. Mais c'est un mélange de moi, de ce que j'entends chez les autres, de ce qu'on me raconte et de mon imaginaire. C'est toujours pareil. C'est un gros globi-boulga de tout ça. et je suis incapable d'écrire un bouquin qui est collé à ma réalité. Incapable.
Finalement, c'est ton nouveau job?
Oui. Là, c'est un peu compliqué parce que là, j'avais un CDI en tant qu'auteur.
Ah oui, ça existe?
Non. Non, mais moi, oui. 6CC, moins 1,5 SA. Mais j'avais la chance d'être embauché dans un projet un peu fou, dans un univers de jeux vidéo où un patron de jeux vidéo a embauché une équipe d'auteurs pour écrire une saga littéraire en 7 tomes, avec une partie science-fiction, une partie fantasy, donc elfes, fées et compagnie. Et donc on était 6 auteurs à écrire ça, et moi j'avais un CDI, voilà, et la boîte cool.
Merde.
Ouais, tu l'as dit, ma galaille. Après j'ai plein de projets en cours, tu vois, là je fais... l'écriture d'une série de films d'animation avec un jeune là, qui sort d'une école d'animation, Soren, que j'adore. On fait un truc bien punk, comme j'aime. Et puis voilà, je cherche un éditeur pour un livre illustré que je fais avec mon ami Yann Luran, qui est photographe à Saint-Martin en Vercors. On a écrit un conte avec des photos très réalistes. Voilà, un quatrième roman. Et puis là, j'ai peut-être... Ben, voilà, il se passe des choses... autour du scénar, mais de manière non officielle pour le moment. Donc on va voir si ça marche ou pas.
Ok. Waouh, ouais, bah, ça fait pas mal de projets. Des incertitudes, des attentes, c'est pas très confortable, mais non. C'est créatif et quand même foisonnant.
Moi, j'ai besoin d'être en mouvement, en lenteur pour écrire, mais j'ai peur de l'arrêt. Donc l'arrêt, c'est bien, mais ça permet de faire une pause, mais il faut repartir vite. Donc c'est pour ça que sans être un hyperactif comme je pouvais l'être quand j'étais apiculteur, mais moi j'ai besoin d'avoir des projets et d'avancer tout le temps, d'avoir des choses en tête. J'ai des envies d'atelier d'écriture aussi sur le Vercors ou sur Montpellier, enfin voilà quoi.
Dans ton rôle d'écrivain,
ouais.
D'auteur,
ouais.
Est-ce que tu as l'impression de participer à une certaine transition, un changement d'époque, de monde, de je ne sais?
Ça, c'est super compliqué, tu vois. Moi, j'ai un pote qui est auteur et qui dit que lui, il écrit pour changer le monde et qu'il est convaincu avec son ego surdimensionné, que j'adore. Hein. Sans ego, tu meurs, et un auteur sans ego, il écrit pas. Mais l'important, c'est qu'est-ce que tu fais de ça? Moi, je suis très en questionnement par rapport à mon propre ego et au service de quoi je décide de le mettre. Et en fait, moi, j'écris, je le dis toujours, hein, moi, j'écris de manière extrêmement égoïste dès le départ. J'écris pour ma pomme, j'écris pour me faire du bien, j'écris pour y rencontrer, y trouver et épouser de l'absolu, une liberté sans borne. Et l'état d'écriture et le moment d'écriture... Il n'y a rien qui équivaut à ce kiff absolu. Donc c'est vraiment quelque chose de très égoïste au départ. Après, évidemment, j'écris pour être lu, donc j'oublie pas le regard de l'autre. Donc en second lieu, j'écris aussi pour mes lecteurs, pour mon éditrice et pour mes proches. Après, je trouve que c'est casse-gueule en fait, cette idée d'écrire pour changer les choses ou pour apporter quelque chose à une société. Je trouve ça hyper casse-gueule parce que ça peut nous mettre au-dessus du commun des mortels, au-dessus du lot, au-dessus de la masse. Et moi, je viens d'un milieu populaire et je le revendique et je suis clairement estampillé culture pop, quoi. Culture pop et populaire, ce qui est la même chose pour moi. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, beaucoup. Tu vois, j'étais à Paris, je suis allé voir un match de rugby avec des rugbyman ce week-end. Je passais le week-end avec des gens populaires. J'ai rencontré des barman, des éboueurs, etc. Et avec ces gens-là, je me sens extrêmement bien parce qu'il y a de la simplicité. Voilà. Ça, c'est de là où je viens, c'est là où je suis et c'est là où je vais. Après, si ça ne m'empêche pas d'avoir plein de potes auteurs qui sont dans un milieu beaucoup plus intellectuel, voire bourgeois de gauche, même s'ils n'en ont pas conscience et qu'ils sont dans le déni par rapport à ça, c'est pas très grave, on va pas se renier dans qui on est. Mais je peux être aussi très bien avec un milieu, donc de gauche intellectuelle, mais même de droite intellectuelle, tu vois. Moi, je ne suis pas quelqu'un de droite, c'est pas un secret. Mais j'ai peur de la position de l'auteur au-dessus du lot qui est là pour changer le monde. Après, je ne vais pas te mentir que si demain j'ai un prix, je ne vais pas le refuser, même si je n'écris pas pour avoir des prix. Si demain on me donne un prix, je le prends. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est l'étape suivante de l'état d'écriture, du pourquoi j'écris. Après, quand j'ai un petit jeune, comme ça m'est déjà arrivé, qui vient me voir et qui me dit « Vous êtes mon auteur préféré, vous avez bouleversé ma vie, et depuis que je vous lis, j'ai changé radicalement mon point de vue sur les gens, les choses et sur ce que je veux faire. J'ai tout planté, mon boulot de merde, de futur commercial, banquier ou je ne sais quoi, pour lequel j'étais destiné, pour devenir, je ne sais plus, musicien, auteur, saltimbanque ou menuisier, ça n'a pas d'importance. Bon, ben voilà, je ne vais pas te dire que ça ne me touche pas. Évidemment que ça me touche. » Je trouve que c'est une sacrée responsabilité d'écrire des bouquins. Quand certains disent « oui, mais moi j'écris pour changer le monde et pour proposer un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses », c'est de la responsabilité. Et en plus, qui on est nous pour dire aux autres « pensez comme nous, on a raison ». Moi je suis convaincu, si tu veux, d'être en accord avec moi-même et en accord avec mes valeurs. Pas tous les jours, clairement, j'ai beaucoup de doutes. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que le problème majeur de la société, ce qui, moi, me touche et me bouleverse et me met très à mal quotidiennement, c'est ne plus s'entendre dans nos différences. Ça me fait mal, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est aller me confronter à mon bel opposé, parce qu'il va me remuer dans mes certitudes. Et lui, il est convaincu d'avoir raison, comme moi, je suis convaincu d'avoir raison. Et je pense que jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait encore un pont entre les différences. Et je trouve que chez tout le monde, aujourd'hui, tout est clivé. On s'est tous recroquevillés entre nous, entre convaincus, parce qu'on est assaillis, parce qu'on est accusés, parce qu'on est malmenés. Il y a beaucoup d'agressivité, etc. Et les différences ne sont plus tolérées. Et du coup, l'écriture, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je vais proposer via mes personnages des points de vue qui me sont chers, des valeurs écolo, des valeurs sociales de gauche, des valeurs de tolérance, etc., etc., mais pas dans ma narration, toujours par mes personnages, pour pas faire de prosélytisme. Et je trouve que l'entre-soi peut faire de nous des espèces de co-sanguins intellectuels qui fait qu'on va vieillir avec des tares, quoi. Et voilà, ce sujet, ça englobe tout ça. Ta question, elle m'amène à cette longue réponse. Mais il y a un vrai questionnement en tant qu'auteur. Donc on dit les auteurs sont les spectateurs du monde, les auteurs ou les artistes. Donc oui, mais c'est parce que c'est lié, je pense, à un trait de caractère qui est proche de l'empathie et qui fait que cette empathie qui parfois déborde en nous, on se fait de la place en faisant des mots, de la peinture, ou une fois de plus de la charpente ou je ne sais quoi. Donc oui, on peut proposer des idées, on peut proposer des points de vue, des contre-pieds qui sont parfois dans des replis qu'on ne voit pas toujours ou qu'on n'entend pas toujours. De par une empathie peut-être un peu exagérée, mais qui est subie, ça ne veut pas dire qu'on a raison.
Tu observes quand même une transition qui s'opère, des changements qui se mettent en branle, et tu participes à travers le choix, comme tu dis.
Je prends mes responsabilités là-dedans, tu veux. Je ne veux pas dire mais non. Oui, bien sûr que ça fait partie du moment où tu es édité ou du moment où tu es lu. De toute façon, tu vas influencer les gens, que les gens soient d'accord avec toi ou pas. Donc oui, on participe à un changement forcément, parce qu'on fait partie d'un paysage. Tu vois, là, je suis en lice pour un prix que j'adore, ça s'appelle « Habiter le monde ». Qui est sur Montpellier. Je suis hyper fier parce qu'on n'a pas proposé le bouquin et on a été choisi quand même. Et j'aime beaucoup cette idée d'habiter le monde. Comment le monde t'habite, comment tu habites le monde. Et ça rejoint un peu ce questionnement aussi. Ouais. C'est tout ça. Comment tu décides de remplir ta vie et comment tu décides d'aller habiter ce monde qui t'entoure, dont tu fais partie, mais qui fait aussi partie de toi. Je suis aussi très proche d'une histoire de grand tout, etc. etc. Mmh.
T'es optimiste, toi?
Bon. Ça dépend. Non, je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste comme garçon, mais après, j'essaie de garder la patate, tu vois. Je suis quand même bien rattrapé en ce moment par l'état du monde, ouais. Non, ça me... Je suis hyper inquiet, en fait, par l'avenir. Moi, je suis inquiet de voir la peste brune là, qui débarque. Moi, je suis un fils d'immigré, tu vois. Et toute ma vie, j'ai revendiqué la tolérance, la différence. Je suis allé en Afrique, au Maghreb, etc., etc. Putain, voilà, moi, ça me tue, quoi. De voir tous les xénophobes se lâcher, totalement décomplexés, de manière extrêmement naturelle et normale, qui viennent me parler comme si j'en étais, en plus, tu vois, et qui sont surpris que j'en sois pas. Ça m'inquiète énormément. Je me dis, mais on va où comme ça, tu vois? Ça nous rappelle quand même une époque qu'on n'a plus envie de voir. Je suis très inquiet parce que j'ai bossé des années en apiculture et que l'abeille, on l'appelle la sentinelle de l'environnement, c'est pas pour rien. On voit l'état de la planète, j'ai beaucoup milité pour des assauts environnementales. Bon, ben voilà, on a espéré des changements et en fait, c'est parti à fond, mais dans l'autre sens. Voilà, les agressivités, les guerres, les virus. Putain, je me dis, mais l'avenir de mes gosses, c'est quoi? Toi, mon gosse, je lui dis, mais bosse à l'école pour ton avenir. Et il se marre, il me dit, mais de quel avenir tu me parles, tu vois? Donc, t'as envie de rester optimiste pour eux, parce que tu te dis, putain, on a fait des enfants, c'est pas pour leur offrir ce tas de pu, parce qu'on est quand même responsable de cet état du monde. On dit, bah, c'est pas toi, bah, un peu quand même, si c'est pas moi, c'est tout le monde, en fait. C'est notre responsabilité. Quand tu mets ton butin dans une urne, c'est ta responsabilité. C'est toi qui changes le monde ou pas. Je change plus le monde, moi, aujourd'hui, en faisant de l'apiculture et en allant voter, qu'en écrivant des bouquins, pour revenir à ta question de tout à l'heure. Tu vois, j'ai beaucoup plus l'impression de militer en maintenant les abeilles en vie et puis en faisant des vrais choix, malgré tout ce qu'on peut dire, avec un bulletin. Mais non, je suis très inquiet, ça part... Tout part à vélo, ma pauvre Suzette.
Il va falloir quand même laisser un message, non?
Un message?
Ouais.
Je ne suis pas là pour le moment. Un message, si, bah oui, le message, c'est continuons à entretenir, à reconstruire les ponts qui se sont effondrés entre les gens et entre les différences. Et relevons la tête et allons vers nos beaux opposés, même s'ils nous dégondent. Voilà, il faut savoir nous entendre, nous écouter pour avancer ensemble. De toute façon, si on n'avance pas ensemble, on n'ira nulle part, quoi.
Tu penses faire partie des hyper sensibles émotionnels?
Ouais, je sais pas, il paraît, ouais, j'en sais rien. Peut-être, ouais. Moi, je pense plutôt que c'est le monde qui est hypo-sensible.
Merci Fabrice.
Merci Magalaï.
Merci les abeilles de nous avoir accueillis, supportés. Et presque pas piqué.
C'était l'ADN.